Alors, deux invités maintenant pour parler de... C'est une semaine vraiment importante là, dans le monde de l'environnement. La semaine commence par le retrait du Canada de Kyoto. Et la semaine se termine avec, on pourrait le dire presque, l'entrée du Québec sur le marché du carbone. On voulait faire le point sur tout ça. On voulait voir aussi jusqu'à quel point l'économie et l'environnement sont liés, le seront toujours. Et on a le privilège de recevoir Monsieur Stéphane Dion. Bonjour.
Bonjour, Mme Perrin.
Et député de Saint-Laurent-Cartierville, ancien ministre de l'Environnement. Ancien chef du Parti libéral du Canada. Et notre collègue Jean-Sébastien Bernacchi, bonjour.
Bonjour, Catherine.
Parce qu'on s'est dit que vous, là, au jour le jour, oui. Vous recevez, vous prenez le pouls, finalement, de tout le secteur économique et industriel du Canada, et que ça vous permet de savoir comment tous ces gens-là se positionnent par rapport à l'environnement. Mais d'abord, Stéphane Dion, là, moi, je me suis demandé carrément, voyant les journaux ce matin à pleine page, le Québec impose des plafonds, ça y est, le marché du carbone s'en vient et tout. Je me suis dit, est-ce que vous vous dites que finalement, vous devriez faire de la politique provinciale, Stéphane Dion?
Non, parce que bravo pour l'initiative du gouvernement du Québec, mais aucun pays ne peut vraiment atteindre des objectifs ambitieux si le gouvernement national ne met pas l'épaule à la roue, si le gouvernement national n'imprègne pas un leadership. Et ce leadership fait défaut à Ottawa, et donc c'est pourquoi je dois continuer à me battre à Ottawa.
Oui, mais d'accord, il fait défaut à Ottawa, il est présent au Québec. Est-ce que vous diriez, comme beaucoup l'ont souvent dit, c'est parce qu'on la donne est plus facile au Québec?
Mais il est présent en Ontario. Le premier ministre McGuinty a failli perdre ses élections sur un plan courageux de transformation des sources d'énergie en Ontario pour les rendre moins polluantes, mais il a gagné. Il a survécu à ça, bravo. En Colombie-Britannique, le premier ministre Campbell est tombé, finalement, mais il a quand même laissé comme héritage une taxe sur le carbone qui est la plus ambitieuse d'Amérique du Nord. Alors, écoutez, il se fait des efforts au niveau des provinces, au niveau des municipalités. Il y a des maires qui nous écoutent et qui aimeraient qu'on souligne les efforts qu'ils font à leur échelle. Les citoyens, les entreprises, des entreprises qui sont modèles et qui font d'énormes efforts. Mais la somme de ces efforts-là nous laisse, à l'échelle mondiale, avec un réchauffement prévu pour ce siècle de 4 degrés centigrades. Et selon les scientifiques, ça met en péril d'extinction, là, de 40 à 70 % des espèces végétales et animales du monde. Ouais, donc, il faut faire beaucoup plus que ce qu'on fait en ce moment.
Mais Stéphane Dion, je vous écoute, puis on pourrait conclure que finalement, si les provinces productrices de pétrole et surtout de sable bitumineux prenaient les choses en main, en fait, le fédéral n'aurait même pas besoin de s'en mêler. Est-ce qu'on pourrait dire que le fédéral, en ce moment, est là, en quelque sorte, pour arbitrer les efforts qui seraient nécessaires de la part des provinces de l'Ouest?
Non, ça peut pas marcher seulement à l'échelle provinciale, parce que l'industrie elle-même demande qu'on évite la balkanisation des efforts au Canada, parce que ça complique beaucoup la circulation des capitaux, des investissements nécessaires à la transformation vers une économie verte.
Non, balkanisation, vous voulez dire donc les efforts isolés d'une province
par exemple,
à la fois.
Oui, il faut quand même le dire, l'Alberta ne fait pas rien. L'Alberta demande à ses entreprises, y compris au sable bitumineux, de payer dans un fonds pour le climat lorsqu'elle dépasse un certain seuil d'intensité énergétique. Mm-hmm. C'est pas suffisant, mais il serait injuste de dire que le gouvernement albertain fait rien. Ouais. Donc, celui qui fait presque rien, c'est le gouvernement fédéral canadien.
Alors là, maintenant, Jean-Sébastien Bernacchi, quand on vient déjà de sectoriser, en quelque sorte, là, on vient de parler des efforts de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, du Québec, du cas de l'Alberta qui fait aussi les siens, est-ce que ça nous amène à constater que finalement, il n'y a pas une seule réponse? Si on dit le Canada sort de Kyoto, pour les industries, puis le Québec rentre dans le marché du carbone, oui, on est inquiet pour les industries, ou c'est pas si simple que ça?
Vous savez, Catherine, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'il n'y a pas eu de yay de la part des entreprises lorsque le gouvernement fédéral a annoncé qu'il se retirait de Kyoto. Pourquoi? D'une part, parce que dans le court terme, ça ne change pas grand-chose. Il n'y avait pas de plan national canadien de mise en place de Kyoto.
Il n'y avait toujours pas de contraintes sur leurs épaules.
Non. Mais au Québec, il y avait déjà un plan d'action sur les changements climatiques, le plan d'action 2006-2012. Je vous parlerai des résultats qu'on a jusqu'à maintenant concernant ce plan-là. Alors au Québec, les entreprises savaient déjà à quoi s'en tenir, et ailleurs, on le savait aussi. D'autre part, et ça, je vous rapporte là des choses qu'on nous dit. Par exemple, le président de la Grappe des technologies vertes au Québec, M. Leclerc, qui nous disait récemment, les dirigeants d'entreprise voient bien ce qui se passe un peu partout et savent que le virage vert, c'est une tendance lourde et que ça va se poursuivre. Et le plus bel exemple qu'on a eu, c'est hier, quand le ministre Pierre Arcan nous a annoncé son projet de bourse du carbone. On le sait que ça s'en vient, ça. Maintenant, vous savez, dans le monde des affaires, il y a d'abord les réactions épidermiques et les réactions à l'usage. Des dirigeants d'entreprise, ça n'aime pas le risque. Là, comprenons-nous, faire des affaires, en soi, c'est un risque. C'est risqué, ça. Mais ce qu'on n'aime pas, c'est l'inconnu, le risque réglementaire, le risque de coûts supplémentaires. Ça, M. Dion, vous en savez quelque chose, lorsque les entreprises entendent le mot « taxe », la réaction première. Mais à l'usage, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il peut y avoir des gains, je pourrais vous en reparler, il peut y avoir des gains à faire, à se montrer plus respectueux de l'environnement, à prendre ce virage vert. C'est bon pour l'image, c'est bon pour la réputation. C'est bon pour le consommateur qui a une sensibilité qui se développe pour le respect de l'environnement. Alors, et là, on peut regarder comment se comporte le Québec et comment se portent les autres provinces. Je vous parlais de ce plan là, sur les changements climatiques. Bien, selon le plus récent bilan de mise en œuvre de ce plan, qui est à jour en 2009, le Québec se retrouve avec des émissions de gaz à effet de serre 2% sous les niveaux de 1990. C'est pas encore Kyoto, ça c'est moins 6. Mais on s'en rapproche. La moyenne canadienne est bien supérieure à ça. On se parlait de, M. Dion, de quoi? De 17 à 30% au-dessus de Kyoto?
Ce qui se passe au Canada, si on regarde, 75% de la population canadienne vit en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique.
Ouais.
Et ces trois provinces-là ensemble se rangent environ dans la haute moyenne européenne. Par exemple, les Québécois, au Québec, on émet moins d'émissions qu'en Allemagne. Par habitant. L'Ontario en émet plus que nous, mais en émet environ comme la Pologne et la Colombie-Britannique comme l'Irlande. Donc on se compare aux pays européens. La grande partie de nos émissions sont concentrées dans deux provinces, la Saskatchewan et l'Alberta.
Mais là, attention,
et là, on est dans un autre monde.
Oui, c'est un autre monde, mais le Canada, là, c'est une fédération. Puis l'argent qui vient de ce pétrole-là,
exactement.
On en profite.
Voilà, c'est ce que les dirigeants de ces deux provinces disent. Ne nous demandez pas à nous deux toutes seules de faire tous les efforts quand tout le monde profite des retombées de ce que nous produisons. Et c'est une des choses dont il faut s'assurer au Canada, c'est qu'on répartit l'effort d'une façon qui soit équitable et on ne s'entend pas là-dessus. Il y a des différentes théories sur la façon dont on doit répartir l'effort. Moi, j'ai ma propre théorie.
Le ministre fédéral des Finances, Jim Flaherty, vient de rencontrer tout récemment les prévisionnistes du secteur privé qui lui disent « voici ce à quoi ressemblera la croissance du produit intérieur brut l'an prochain ». Et là, ces prévisions-là, elles nous sont détaillées par province là, ces jours-ci. Il y en avait encore cette semaine. Que disent les prévisionnistes? Quelles sont les deux ou trois provinces où la croissance du PIB sera la plus forte l'an prochain? L'Alberta, la Saskatchewan et, dans une moindre mesure, Terre-Neuve. Les trois provinces productrices de pétrole. Alors, le ministre des Finances se fait dire par les prévisionnistes, il y a de gros nuages dans le ciel, là. Ça ralentit. Au Québec, en Ontario, la croissance s'annonce sous les 2%.
Donc, on en a besoin de cette locomotive-là.
Bien, la logique, dans le fond, c'est de se dire, à court terme, je vous dis pas là, qui a tort, qui a raison, là. Je vous dis là, ce que j'observe. Mais la logique, c'est de dire, ben, on ne peut pas se permettre de cesser de produire du pétrole, des sables bitumineux, compte tenu de ce que ça rapporte. Maintenant, on pourrait se dire, et là, M. Dion aura des choses à vous dire là-dessus lui aussi, est-ce que les sables bitumineux pourraient devenir propres un jour? Il y en a qui vont nous dire, et j'en entends, qui me disent, par définition, les sables bitumineux ne peuvent jamais devenir propres.
Mais jamais devenir propres, mais est-ce que les efforts sont faits assez vite pour les rendre
L'an dernier, j'en parlais avec le président de SNC-Lavalin, Pierre Duhaime, qui suit ça. Il est ingénieur. Il me dit, moi, je regarde ça aller. Je vous dirais qu'en ce moment, il me disait ça l'an dernier, nous ne sommes pas à la moitié du chemin qu'il faut faire pour en venir à les rendre propres. Lui, il est convaincu que c'est possible. Mais ce qu'il me dit, c'est, à un moment donné, il y a une percée technologique. Et à partir de là, c'est exponentiel. Il me disait que ce serait une question d'année.
Ouais, je pense que mes pensées magiques là-dedans. Il faut espérer.
Il faut changer de modèle. Tant que les émissions sont gratuites, l'industrie n'investira pas vraiment. Elle va investir un peu pour des raisons de marketing, mais pas vraiment. Et on demande au gouvernement de compenser. Le gouvernement fédéral, le gouvernement, la province d'Alberta était très fier d'annoncer quelques milliards de dollars là-dedans, mais c'est nos sous, ça. Et ces industries font des profits énormes et ça prend plus que quelques milliards de dollars pour transformer les sables bitumineux en quelque chose de beaucoup plus propre, pour capter le CO2 notamment, utiliser moins d'eau, etc., moins de toxiques, etc. Et la façon d'y arriver, c'est de mettre un prix aux émissions de gaz à effet de serre, un prix réel, plus exigeant que ce que l'Alberta propose. Et ce que j'ai pas réussi à faire, c'est convaincre les Albertains et les gens de la Saskatchewan que ça serait bien meilleur pour eux. Parce qu'à l'heure actuelle, ces industries-là tirent la matière première, font un profit Et l'argent sort vite de l'Alberta, la Saskatchewan. Beaucoup de ces actionnaires-là sont pas canadiens. Si on leur demandait de faire un effort pour réduire leur pollution, ils investiraient massivement en Alberta et en Saskatchewan. Et ils utiliseraient
dans des technologies.
Oui, et ils utiliseraient le know-how qu'on a dans les centres de recherche et les universités de ces deux provinces et du Québec et de partout au Canada. Mm-hmm. Et ça ferait un modèle de développement économique beaucoup moins lié seulement au pétrole, parce que quand on lit le développement économique au pétrole, notre monnaie devient une monnaie un pétrodollar, et ça nuit à nos industries ici qui ont la plus de difficultés à exporter parce que le dollar est artificiellement haut comme monnaie, alors que si on diversifiait l'économie en rendant notre économie durable et propre, on aurait un modèle de développement beaucoup plus diversifié qui créerait des emplois de meilleure qualité.
Est-ce qu'en ce moment là, Jean-Sébastien Bernacchi, vous faites répondre à votre émission à Classe économique quand on expose ce genre de modèle là, investir dans des nouvelles technologies pour rendre ça, on va rester avec cet exemple là, pour rendre les sables bitumineux plus propres, c'est investir dans l'économie canadienne, c'est garder un peu plus des profits de cette industrie là ici au Canada. Est-ce que vous faites répondre c'est de la pensée magique ou bien est-ce qu'il y en a qui commencent à croire ça?
C'est toujours nuancé, mais je ne vois pas pourquoi ce serait de la pensée magique quand on constate que l'industrie des technologies propres en ce moment au Canada, c'est 700 entreprises, 400
même,
au Québec, des revenus de 9 milliards de dollars, 44 000 personnes dans le secteur des technologies propres. Ben voilà.
Parce que c'était il y a 5 ans.
On pense qu'en 2020, ce serait 125 000 personnes dans ce secteur-là.
Actuellement, en Allemagne, et depuis plusieurs années d'ailleurs, il y a plus d'emplois dans le domaine des technologies propres, seulement les éoliennes, mettons, qu'il y en a dans l'industrie de l'automobile. Pourtant, les compagnies allemandes...
Ils en font encore des pas mal.
mais c'est sûr que c'est un modèle de développement qui sur lequel il faut s'appuyer au Canada. Et on prend un retard. On prend un retard parce que le gouvernement fédéral, n'imposant pas des réglementations sérieuses ni un prix sur le carbone, eh bien, ralentit les investissements dans ces secteurs-là et crée une incertitude qui décourage beaucoup les entrepreneurs. Et c'est pas seulement des politiciens comme moi qui le disent. Le CDAO, l'Institut a fait un rapport il y a 2 ans en disant on prend du retard, il faut s'y mettre, là, parce que t'es en train de rater le bateau. Et c'est grave pour un pays comme le Canada que de devenir un pays d'exporteur de matières premières brutes, alors qu'on pourrait faire tellement plus avec le potentiel qu'on a.
Là, je pense aux auditeurs qui nous écoutent, puis qui depuis quelques années n'entendent parler que d'économie, puis qui se font dire, ah là, malheureusement, il faut prendre une pause, il faut slacker nos efforts sur l'environnement parce qu'on n'a pas les moyens. Comment il va falloir procéder pour que je vais employer un drôle de mot, mais la marque environnement reprenne avec des idées comme ça, là, des idées très modernes sur ce secteur-là qui peut créer de l'emploi et tout, pour que ça reprenne des racines puis que le message passe dans la population.
Je ne pense pas que ce soit aussi noir et blanc que ça.
Ben écoutez, les sondages sur la préoccupation des citoyens pour l'environnement sont...
Il y a eu quand même, tout récemment, la publication du baromètre de la consommation responsable par l'Observatoire de la consommation responsable de l'Université de Sherbrooke, qui nous indique qu'il y a, par exemple, une sensibilité très grande de la part des gens, et ceux qui sont vraiment réfractaires à l'environnement, c'est une minorité. Les réfractaires, c'est 13% de la population québécoise dans ça. Opposer constamment économie et environnement, selon ce que j'observe, c'est une erreur. Je vais vous donner l'exemple d'une entreprise comme Walmart. Walmart, entreprise controversée s'il en est,
cette semaine,
qui est réputée pour un contrôle des coûts plus que serré. Dans les années 2000, elle a mis en place un plan environnemental dont le but était, d'une part, de répondre aux critiques qui lui étaient faites. Quand je vous parlais de l'image...
Oui, il y a très certainement beaucoup de ça,
Réduire ses coûts également. Mm-hmm. Par exemple, faire tourner les moteurs de ses camions inutilement. Ce n'est pas bon pour l'environnement, ça, on s'entend. Alors, on a trouvé une façon de pouvoir... éteindre les moteurs, tout en protégeant la marchandise, en assurant le confort du chauffeur lorsqu'il veut dormir ou prendre une pause. Et on s'est aperçu qu'on économisait des millions de dollars là-dessus. Il y a eu des reportages aux États-Unis qui ont été faits là-dessus. Un conseiller en développement durable, Jean-Sébastien Trudel, en a parlé dans son livre récent, Le Grand Mensonge Vert.
Ce que je comprends, Jean-Sébastien, puis j'aimerais entendre M. Dion là-dessus, c'est que il y a quand même une partie importante des pas qui devront être faits par des géants comme Walmart, par des entreprises, et que le gouvernement, finalement, a un rôle à jouer certainement, mais il faut que ça parte aussi de la base.
Il faut que ça parte de la base, mais si le sommet a pas l'air de suivre et même freine, tous les efforts qui sont faits à la base n'arriveront pas à faire les changements à l'échelle voulue. Je rappelle tout simplement, juste pour les changements climatiques, parce qu'il y a d'autres enjeux, il y a l'eau, etc. Mais juste pour les changements climatiques, si on continue les efforts volontaires que les pays ont annoncés à Durban et avant à Cancun et avant à Copenhague, si on regarde les efforts volontaires qu'ils ont obtenus, puis qu'on assume qu'ils vont les atteindre,
oui. ce qui est déjà optimiste.
Rien que parler du Canada, selon le ministère de l'Environnement lui-même, on est à 25% de notre effort, là, simplement. Donc, on risque de rater notre cible de beaucoup. Et si tous les pays la ratent, c'est encore pire. Mais même si on les atteint, on n'a pas un réchauffement climatique qui est limité à 2 degrés centigrades, qui est le point de basculement au-delà duquel le climat risque de se détraquer de façon irréversible. On atteint 3,5, sinon 4 degrés. Mm. Donc, ces efforts-là sont insuffisants. Il faut que les pays en fassent plus et il faut qu'il y ait une entente internationale plus sérieuse que ce qu'on vient de négocier, qui est simplement de s'entendre pour dire qu'on ne s'entend pas.
Est-ce que vous trouvez que ceux qu'on appelle les climato-sceptiques, justement à la faveur de la crise économique, à la faveur peut-être d'une baisse de popularité de ce que j'ai appelé la marque environnement, à partir de la crise qui a coïncidé un peu avec la crise économique, est-ce que vous trouvez qu'ils ont pu s'infiltrer beaucoup plus dans l'inconscient collectif? Parce que là, je vous écoute avec les chiffres que vous donnez. Puis, il y a 3, il y a 4 ans, j'aurais été complètement en alerte et tout. Puis là, il y a une partie de mon esprit qui dit, « Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui remettent en question la façon de calculer, qui disent que c'est de la spéculation, que
ta-ta-ta? » Vous avez tout à fait raison. Les efforts du lobby anti-lutte au changement climatique, c'est des milliards et des milliards de dollars. C'est des centaines et des milliers de lobbyistes qui font un travail très intense, et ça a affaibli la détermination des populations et de leurs dirigeants, surtout dans des pays comme le nôtre et aux États-Unis. Mais j'ai encore vu récemment un relevé de l'opinion des scientifiques du climat aux États-Unis, fait par l'Académie des sciences des États-Unis. 97% d'entre eux sont déterminés à dire que toutes les informations scientifiques qui leur parviennent les amènent à conclure que le réchauffement climatique est induit par l'activité humaine. Mmh. Donc, il n'y a pas vraiment de débat entre les scientifiques là-dessus. Il y a toujours des débats sur à quelle vitesse on va vers le réchauffement, etc. Mais les prémices de base sont bien acquises sur le plan scientifique, mais dans l'opinion publique et auprès des politiciens, regardez seulement la course à l'investiture républicaine. Même les deux meneurs qui dans le passé avaient dit il faut lutter contre les changements climatiques, maintenant déchirent leur chemise en disant non, j'ai jamais dit ça, je vous jure, il faut rien faire, c'est une invention, c'est un complot. Donc oui, vous avez raison, il y a eu un affaiblissement de la détermination mondiale pour lutter contre le climat à cause de ce lobby.
Puis comment on pourrait renverser cette situation-là?
Bien, moi, je vous dirais,
Jean-Sébastien,
il ne s'agit pas d'opposer l'économie à l'environnement, parce qu'il y a de l'économie dans tout et il y a de tout dans l'économie. Alors, ce sera une affaire d'effort des grands pollueurs, ce sera un effort du secteur industriel. Au Québec, il y a beaucoup de chemin qui a été fait, mais on peut encore en faire. Mais c'est parler également de quoi? C'est parler de l'aménagement du territoire. C'est parler des choix qu'on fait pour l'étalement urbain, pour restreindre ça, dans les projets de transport en commun également. Les choix qu'on fait... Le code du bâtiment. Alors, il y a de l'économie dans tout ça. Mm. Il y a du politique dans tout ça et il y a de l'environnemental dans tout ça.
Ouais.
Alors, moi, ce que je... Et quand je vous parlais de l'aversion au risque des dirigeants d'entreprise, et on l'a vu dans la réaction à ce qui nous a été annoncé hier, on a peur d'être désavantagé par rapport à d'autres. Alors, ce qu'on dit, c'est embarquons tous dans le même bateau.
S'il y avait un prix mondial, à ce moment-là, personne ne pourrait utiliser cet argument-là. Tout le monde serait sur le même pied. Ce qui serait plus sur le même pied, c'est que les sources polluantes, prenons le charbon, bien, le coût environnemental lié au charbon serait internalisé dans le prix, ce qui rendrait tout de suite les solutions
alternatives,
plus compétitives et surtout plus attrayantes pour les investissements afin de faire les avancées technologiques que M. Bernatchez a mentionné au début. Mm-hmm. Et on investit maintenant plus pour les éoliennes et le solaire que pour le charbon et le nucléaire. C'est déjà un premier pas. Mais il faut accélérer le mouvement.
Quelques autres affaires. Ben, un grand merci tous les deux. Merci, Stéphane Dion, donc député de Saint-Laurent-Cartier-Ville, et Jean-Sébastien Bernatchez, animateur de classe économique. Et j'ai vraiment envie que les auditeurs nous disent, et vous, est-ce que vous avez été tanné d'entendre parler d'environnement? Est-ce que vous recommencez à vous poser des questions? Ce serait vraiment intéressant d'avoir le pouls de ce côté-là. Alors, médium large en un seul mot, @radio-canada.ca. Bonne journée à tous les deux. Merci.
Merci.